Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Simone de Beauvoir et le scandale du deuxième sexe, par Stéphanie Duncan. Réalisation, Jacques Taroni. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme. Et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore.
Simone. Simone.
Oh, Giacometti. Pardon, je ne vous avais pas vu. J'étais dans mes pensées.
En 1946, Simone de Beauvoir a 38 ans. Elle est belle, indépendante et célèbre. Une célébrité qu'elle doit à ses premiers livres, à ses articles dans la revue Les Temps Modernes, mais surtout, il faut bien le dire, au couple sulfureux qu'elle forme à Saint-Germain-des-Prés avec Jean-Paul Sartre, sacré depuis peu pape de l'existentialisme, et elle, un peu à l'arrière-plan, Notre-Dame de Sartre. C'est le deuxième sexe, en 1949, qui la consacrera au même niveau que Sartre. Ce matin de juin 1946, Simone, comme tous les jours, a quitté sa chambre d'hôtel où elle vit pour aller travailler au café, aux Deux Magots.
Vous étiez dans vos pensées ? Mais quelles pensées ? Eh, comme vous avez l'air sérieuse, farouche. Un jour, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien faire une sculpture de vous.
Rien ne pourrait me faire plus plaisir.
À chaque fois que je vous vois ici, vous êtes en train de lire, d'écrire. Comment arrivez-vous à vous concentrer dans un tel bruit ?
C'est vrai, c'est bizarre. Mais c'est ma manière de travailler. J'ai besoin de cette agitation, d'observer les gens, la vie. Comme vous, pour sculpter, vous avez besoin du calme de votre atelier. Vous cherchiez Sartre ?
Oui, oui. Oui, il m'a parlé d'un collectionneur qui voulait voir mes sculptures.
Je déjeune avec lui tout à l'heure, je vous dirai que vous le cherchez. Mais asseyez-vous si vous voulez, prenez un café avec moi.
Je ne voudrais pas perturber la pensée en marche.
Oh, rien à craindre. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est le grand vide.
C'est normal. Vous venez de publier un roman. Pas facile de penser déjà au suivant.
Je n'ai pas envie d'écrire à nouveau un roman.
Mais c'est philosophique alors. C'est quand même votre partie, non ?
Oui, peut-être. J'ai très envie d'écrire, mais je ne sais pas quoi.
Ces auteurs, écrivez n'importe quoi. Inventez.
En réalité, Simone de Beauvoir avait envie de parler d'elle-même. Mais comment ? Durant l'été 46, Sartre et elle prennent quelques jours de vacances au bord de la mer, sur la côte de l'Esterel.
Pourquoi ne pas réfléchir à ce que cela a signifié pour vous d'être une femme ?
Une femme ? Oui. Mais vous le savez, les féministes ne m'ont jamais beaucoup attirée. Et puis de toute façon, je me suis toujours sentie à part. Je viens d'une famille bourgeoise, mais déclassée. Comme il n'y avait pas de dot pour moi, les choses étaient très claires. « Tu ne te marieras pas, ma pauvre fille », disait mon père.
Il faudra que tu travailles.
Eh oui, la plupart des femmes n'ont pas entendu ça.
Vous n'étiez quand même pas la première jeune fille obligée de gagner sa croûte.
D'accord, mais les femmes se retrouvent le plus souvent à des boulots subalternes. Moi, j'avais des ambitions. J'étais sûre que je serais écrivain et célèbre. Et surtout, on m'a laissé faire. Mon père disait aussi « Tu as un cerveau d'homme ». C'était un peu bizarre. Je me demandais ce que ça voulait dire. Mais au moins, je ne me suis jamais sentie inférieure aux hommes.
Oui. Je me souviens quand nous préparions la grègue. Vous étiez de toutes les discussions. Avec Nisan, Aaron et les autres, d'égal à égal. Vous étiez bien la seule. On ne peut pas dire en tout cas que votre mère vous ait servi de modèle.
Un contre-modèle, peut-être. La pauvre n'a pas eu une vie drôle. Elle qui avait été élevée dans l'opulence, le culte du mariage et de la famille chrétienne. Elle est tombée de haut. Ruinée, humiliée. Je la vois encore faire la cuisine, vider elle-même les poubelles, repriser 100 fois des manteaux usés jusqu'à la corde. Je lui dois beaucoup, mais quelle horreur.
Et elle devait supporter en silence les maîtresses de son mari. Du vrai Phédo, sauf le respect que je dois à votre mère.
Avec beaucoup de tendresse, il appelait ça ses petits coups de canif dans le contrat.
Qu'il n'aurait pas toléré de son épouse. Le salopard. Et vous ? Vous pensez avoir échappé à tout ça ? à des siècles de soumission féminine.
C'est vrai. J'ai dû parfois supporter les regards des bien-pensants. Quand j'allais au bistrot toute seule. Quand j'incitais mes élèves à lire André Gide. Et aussi, je vous le rappelle, parce que je couchais avec vous sans être mariée. Mais non, j'ai cette chance. Ma féminité ne m'a jamais gênée.
Vous êtes une femme exceptionnelle. Et c'est pour ça que je tiens tellement à vous. Nous sommes indissociables, égaux. Cependant, non, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas été élevée de la même manière qu'un garçon. Je vous assure, philosophiquement, vous devriez regarder de plus près la question de la féminité. Ça doit être passionnant.
Je regardais et j'eus une révélation. Ce monde était un monde masculin. Mon enfance avait été nourrie de mythes forgés par les hommes et je n'y avais pas du tout réagi de la même manière que si j'avais été un garçon. Je fus si intéressée que j'abandonnais le projet d'une confession personnelle pour m'occuper de la condition féminine dans sa généralité.
Cette fois, elle tenait son idée. Dès leur retour à Paris, Simone se précipite à la Bibliothèque nationale pour y étudier les mythes de la féminité. C'est sa manière à elle, se plonger dans les livres plus que dans l'expérience personnelle. Le projet se révèle colossal. Philosophie, histoire, littérature, anthropologie, psychanalyse, biologie. Douée d'une force de travail, d'une rapidité de pensée exceptionnelle, le castor, ce n'est pas pour rien que Sartre la surnomme ainsi, épluche tout ce qui, en français et en anglais, a été écrit sur le sujet. Une certitude se dessine très vite à ses yeux. L'homme se pose comme le sujet et considère la femme comme un objet, comme l'autre.
Simone, venez avec nous.
Non, je vous assure, je dois rentrer.
Ça fait 3 mois que vous êtes revenue à Paris et on ne vous voit plus.
Boss, je travaille.
Mais avant aussi, vous travaillez. Ça ne vous empêchait pas de faire des petites virées avec les copains. Allez, Catherine, l'amie de Boris, nous invite tous à faire un tour dans sa nouvelle auto. Une splendeur, il paraît.
Elle a des tickets d'essence?
La voiture est à son père, richissime. Le rationnement, il connaît pas. À mon avis, il y aura le champagne et le gueuleton assorti. Vous qui aimez la vitesse et la bonne chère.
Jacques-Laurent Bost, jeune journaliste à Combat, fait partie de la « petite famille », comme ils disent. La bande de copains fidèles, où Sartre et Beauvoir, curieusement, font figure tour à tour d'amis, de parents et même d'amants.
C'est vrai, ça donne envie. Mais non, je suis sur un bon filon en ce moment. Mon travail me prend à temps plein.
Votre livre sur les femmes?
Oui, j'en suis à la partie historique, sur les origines de la suprématie de l'homme et la formation du patriarcat. Je me suis rendu compte que le sort de la femme est intimement lié à l'avènement de la propriété privée. Et pour une grande partie, son histoire se confond avec celle de l'héritage.
Dites donc, le mâle dominant, il va en prendre un coup avec votre livre. Attention, Simone, il ne vous le pardonnera pas.
Je ne cherche pas la guerre, mais il y a des vérités qui ont besoin d'être dites. Quoi qu'il arrive, je défendrai mon livre contre vents et marées.
L'ouvrage, qui n'a pas encore de nom, s'annonce monumental, près de 1000 pages, et totalement nouveau. Dans le premier tome, Beauvoir démonte l'idée selon laquelle la femme aurait un destin biologique, psychique ou économique. Puis, elle interroge les mythes forgés sur les femmes à travers l'histoire. Dans le tome 2, elle montre comment, selon sa formule devenue célèbre, « on ne naît pas femme, on le devient ». En partant cette fois de l'expérience vécue de femme, de l'enfance à la vieillesse, et en abordant de front, sans fioriture, des questions taboues comme l'initiation sexuelle, l'avortement, l'homosexualité féminine.
Je m'étais mise à regarder les femmes d'un œil neuf, et j'allais de surprise en surprise. C'est étrange et c'est stimulant de découvrir soudain, à 40 ans, un aspect du monde qui crève les yeux et qu'on ne voyait pas. Un des malentendus qu'a suscité mon livre, c'est qu'on a cru que j'y niais entre hommes et femmes toute différence. Au contraire, j'ai mesuré en l'écrivant ce qui les sépare. Ce que j'ai soutenu, c'est que ces dissemblances sont d'ordre culturel et non pas naturel.
Le livre, commencé fin 1946, sera achevé début 1949. Deux années intenses, marquées cependant par un autre événement essentiel dans la vie de Simone de Beauvoir, sa liaison passionnelle avec l'écrivain Nelson Algren, rencontré lors de son premier voyage aux États-Unis. Un amour transatlantique qui va mettre à mal l'équilibre forgé par Sartre et Beauvoir. Les deux philosophes, qui refusent les contraintes et les hypocrisies du couple bourgeois, sont unis par un pacte original et scandaleux pour l'époque. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de foyer, mais une sincérité totale et l'acceptation, à côté de leur amour nécessaire, d'amour contingente, des passades sexuelles en principe sans importance. En principe.
Elles étaient étonnantes tout à l'heure. Ces jeunes filles qui arpentaient le campus de l'université avec leurs blue jeans et leurs grosses vestes de trappeurs.
Et oui, les étudiantes ici font beaucoup de sport. Et dans une tenue confortable, c'est mieux.
C'est tellement mal vu chez nous, une femme en pantalon.
Tu parleras des femmes américaines dans ton livre ?
Non, pourquoi pas. Des mâles américains aussi, alors. Tu sais, quand mon livre sera fini, les hommes, qu'ils soient d'ici ou d'Europe, sauront tout sur les femmes. Et alors, ils ne s'intéresseront plus à elles. Ce sera une révolution effroyable. Ne me regarde pas comme ça. Pour nous, ça ne changera rien.
Bien sûr. Nous sommes de la race des crocodiles et des grenouilles.
Dis-moi, Nelson, chérie. J'aimerais bien retourner dans cette boîte de jazz un peu bizarre où tu m'as emmené l'autre jour. Celle, tu te souviens, où ce vieux noir m'a raconté sa vie pendant une heure. J'y comprenais rien. L'ambiance, la musique était magique. Il ne me reste plus qu'une semaine.
Bien, madame. Je vous amènerai où vous voulez.
Ne te vexe pas. J'aime tellement ce que tu me fais découvrir. Jamais sans toi, je n'aurais vu tout cela. J'ai l'impression de te connaître chaque minute davantage.
My love, moi aussi, j'adore te montrer mon pays. Mais pas celui des cocktails littéraires de New York, non, le vrai pays. Celui des ouvriers, les pauvres même. Et des écrivains fauchés comme moi. Ce que je n'aime pas, c'est que tu me parles de ton départ. J'aimerais que tu retardes ton retour.
J'aimerais aussi. Mais tu le sais, c'est pas possible.
À Paris, il y a ton mari.
Nous ne sommes pas mariés.
Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'avez pas d'enfants, pas de maison. Vous ne couchez plus ensemble depuis 10 ans.
Nelson.
Et vous ne pouvez pas vous quitter. Pardon, mais bonhomme comme moi, c'est un peu difficile à comprendre.
Oui, je sais. C'est étrange, mais... Mais je te l'ai dit, dès la première nuit que nous avons passée ensemble, ma vie est faite en France, aussi bizarre soit-elle. Mais tu le vois bien aussi. Je sais plus trop où j'en suis. Avant toi, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort avec un homme.
Ne t'inquiète pas, ma grenouille. Ma jolie grenouille française. Ne gâchons pas nos derniers moments. Tu vis à Paris. Pour moi non plus, ce n'est pas facile de quitter Chicago. Mais nous nous reverrons, n'est-ce pas?
Je te le promets, je reviendrai. Et nous nous écrirons.
J'arrivais à Paris chaviré, écrit Beauvoir dans ses mémoires. Elle repartira aux États-Unis. Mais la séparation et le retour en France seront à chaque fois plus difficiles. D'autant que Sartre vit à peu près la même situation avec Dolores, sa maîtresse américaine, qui presse le philosophe de choisir entre Beauvoir et elle. Pour tenter de se remonter le moral, Simone prend des amphétamines, sans grand succès. Surtout, elle se remet au travail, pour elle le meilleur des remèdes. À l'automne 1948, enfin, le premier volume de son livre est achevé.
Est-ce que je peux entrer ?
Bien sûr.
Ouais.
Vous faites quoi dans ce halo de fumée ?
On complote, bien sûr. En fait, on cherche un nom.
Un nom ? Vous allez nous faire un gosse ?
Très drôle, Bost. Mais vous qui avez de l'esprit, venez donc un peu nous aider. Ça fait 2 heures qu'on cherche.
On cherche un nom, un titre pour le livre de Castor.
Vous avez trouvé quoi jusqu'à présent?
Sartre a suggéré Ariane ou Mélusine, des éternels féminins. C'est beau, mais ça ne va pas. Toute ma première partie est consacrée justement à démonter les mythes. Non, il faut trouver autre chose.
Un titre qui soit court et qui en même temps donne tout de suite le ton. Concentre l'idée. Jette un pavé dans la mare.
L'idée forte du livre, si j'ai bien compris, c'est que l'homme, le sujet, a toujours considéré la femme comme un objet. Pourquoi pas alors la femme-objet? Non, d'accord, ça sonne pas bien.
Il va bien falloir qu'on le trouve, ce fichu titre. Je commence à fatiguer.
Moi, dans le même esprit, j'avais pensé à l'autre, ou la seconde, pour exprimer justement l'idée de la deuxième place. Mais ces titres ont déjà servi.
La deuxième place. Pourquoi pas le deuxième sexe? Le deuxième sexe? Oui, tiens, c'est pas mal. Il y a un premier sexe, et donc un deuxième sexe. Vous en pensez quoi?
Le deuxième sexe?
Ça me semble pas mal. Pas mal du tout.
Oui, c'est concis, clair. On a l'altérité et la simplicité. Mmh. En même temps, la crudité du mot sexe. Et en seulement 2 mots, on a déjà une idée du contenu. Bon, je propose qu'on en reparle demain à tête reposée, mais... Oh non, ça me semble bon, très bon. Bravo, Jacques.
Bravo à l'équipe, oui. À la petite famille.
En juin 1949, le premier tome du deuxième sexe paraît aux éditions Gallimard. Le second paraîtra en novembre. Une parution qui avait été précédée quelques mois plus tôt par la publication de 3 extraits dans les temps modernes. Le scandale est immédiat, et le succès aussi. La revue s'est vendue comme des petits pains, et 22 000 exemplaires du premier tome sont vendus dès la première semaine. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le choc qu'a provoqué le deuxième sexe en 1949. Dans une France encore meurtrie par la guerre, dominée par une politique familiale et nataliste, qui assigne à la femme les seuls rôles d'épouse et de mère, qu'une philosophe ose écrire qu'il n'y a pas d'instinct maternel, que la fonction de mère aliène la femme, qu'elle ose revendiquer une liberté non seulement politique, mais aussi sexuelle, sociale et économique, tout cela était totalement scandaleux et inadmissible.
Oui, c'est
un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous aimerions commencer. Merci. Madame de Beauvoir, je me présente, Henriette Charasson du journal L'Époque. Pour commencer, êtes-vous surprise du scandale provoqué par votre livre?
Un scandale? J'ai écrit un livre, je ne suis pas responsable des réactions qu'il suscite. Ce que je vois surtout, c'est que les gens l'achètent, en parlent et j'espère aussi le lisent. Mais je ne serais pas hypocrite, je savais bien qu'il allait déranger beaucoup de monde.
N'a-t-il pas surtout de quoi heurter les femmes? Les mamans qui, en ces temps difficiles, se sacrifient pour élever leurs enfants correctement. Vous n'êtes pas mère vous-même, mais ce sont des réalités qui ne peuvent vous échapper.
Je ne suis pas mère, en effet. Mais à mes yeux, en tant que philosophe et femme, il n'est pas nécessaire d'être mère pour parler de la condition féminine. Pour répondre à votre question, il est possible que mon livre bouscule les certitudes, les habitudes de beaucoup de femmes. Mais je crois qu'il va en soulager, en libérer beaucoup d'autres. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lettres que j'ai reçues depuis juin dernier, de femmes de toutes conditions qui ont sacrifié leurs études, leurs projets personnels pour se consacrer à leur mari et à leurs enfants. Elles me remercient. Elles me disent que dans ce livre, elles ont enfin trouvé du sens, les mots qui expriment leur désarroi et qu'elles y ont aussi puisé l'énergie de se battre. Pour cela, au moins, il me semble que ça valait la peine de l'écrire.
Vous consacrez de longues pages à l'avortement, à la sexualité, aux invertis...
Je n'utilise pas le mot « inverti ». Je parle des lesbiennes.
Ne pensez-vous pas que la lecture de votre livre devrait être réservée aux adultes?
Madame, concernant l'avortement, par exemple, savez-vous qu'en France, où tout contrôle des naissances est illégal, il y a autant d'avortements que de naissances? À peu près 1 million. Des avortements clandestins, bien sûr. Dans les pires conditions d'hygiène. Je pense qu'il faut dire la vérité aux jeunes gens et aux jeunes filles. Une autre question ?
Non, je vous remercie.
Les interviews m'épuisent.
Il faut que tu te reposes un peu.
Ce qui est épuisant en réalité, c'est d'essayer de faire passer les choses importantes, d'être clair. Et quand on lit l'article après, c'est comme si on n'avait rien dit. Ce matin, j'ai lu dans L'Époque, là, celui de cette Henriette Charançon. Elle parle de moi comme d'une fille perdue. Elle me plaint. Oui, elle qui sûrement n'a pas su ce que c'est que d'être aimée de sa mère. Pour Simone de Beauvoir, tout sur terre est bassesse, vice, méchanceté. Espérons, puisqu'elle est professeure, qu'elle n'aura pas trop d'influence sur ses élèves.
Mais oublie un peu cette Charançon. C'est quoi ça, une espèce de méchant bestiole en français?
Mon Nelson chéri, je suis si contente t'avoir là enfin avec moi à Paris. Que veux-tu visiter demain?
Tu sais, j'aimerais bien revoir mon maître. J'y étais allée en 44 dans mon uniforme de GI, mais je n'ai rien vu.
Très bonne idée. Allons-y l'après-midi si tu veux. Le soir, toute la bande a prévu de se retrouver au tabou. Sartre, Boss, Gréco. En principe, les viands y seront aussi.
Boris et Michel. Ah, tant mieux, j'aime beaucoup Michel.
Elle au moins te parle anglais.
Ils sont sympathiques, tes copains. Mais ils sont tous un peu fous, non? Hier, Jean-Co m'a entraîné sur le toit de son immeuble pour me montrer la vue. En hurlant, voilà, le brave Américain. Complètement cinglé. Et demain matin, tu fais quoi?
Je partirai tôt sur la pointe des pieds pour ne pas te réveiller. J'ai une interview à la radio, puis une séance photo, un reportage sur Saint-Germain-des-Prés et l'existentialisme.
Oh, t'es devenu un vrai star, comme on dit chez nous. On parle de toi partout.
Toi aussi, tu es une star, avec ton prix Pulitzer.
Non, ta photo est dans tous les kiosques. Toi, avec Sartre.
Je n'y peux rien. Le photographe a voulu prendre le couple vedette de la philosophie. S'il te plaît, partons d'ici. Il y a toute une table qui n'arrête pas de me dévisager, de glousser. Oui. Oh, ne te retourne pas.
Oh, et vous serez pas madame de Beauvoir? Et vous qui, là? Ah non, si vous voulez, hein, je pourrais vous apprendre des trucs sur les femmes.
Oh, votre presse. Et si je vous casse la gueule?
Non, s'il te plaît.
C'est dit, celui-là, on dirait pas ça.
Allez, on s'en va. Laisse-le cuver son vin. Non, non, j'ai payé. Allez, viens.
Dans le même esprit, Simone de Beauvoir reçoit des tonnes de lettres d'injures, le plus souvent anonymes. Insatisfaite, glacée, priapique, nymphomane, lesbienne, 100 fois avortée, je fus tout, écrit-elle dans ses mémoires. Et la presse, de droite comme de gauche, ne l'épargne pas non plus. Plusieurs fois par semaine, Beauvoir se rend au bureau des temps modernes. Elle y retrouve Sartre, Merleau-Ponty, Bost, ainsi que Colette Audry, journaliste à combat et militante féministe de longue date.
I'm a fool.
Simone, je t'écris pour t'annoncer que je vais me marier. Je ne veux plus te partager avec Sartre. Je veux avoir une femme à moi, un foyer et peut-être un enfant. Des choses tout à fait normales finalement. Tu me proposes ton amitié, c'est impossible. Jamais je ne pourrai te donner moins que l'amour.
Simone de Beauvoir a donc choisi Sartre. Mais elle continuera à écrire à Nelson Algren. Et jusque dans sa tombe, après sa mort en 1986, elle portera l'anneau qu'il lui avait offert. Quant au Deuxième Sexe, publié près de 20 ans avant mai 68, mise à l'index par le Vatican en 1956, il est devenu un classique, traduit dans des centaines de langues et a accompagné des générations de femmes. Même si certains passages paraissent datés et dépassés aujourd'hui, l'essentiel de cet essai, le meilleur de mes essais, disait son auteur, est toujours d'actualité. Au lendemain de la mort de Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter a écrit « Femme, vous lui devez tout ». Time again, I will win. C'était Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Simone de Beauvoir et le scandale du deuxième sexe, par Stéphanie Duncan. Avec Simone de Beauvoir, Delphine Rich, Jean-Paul Sartre, Laurent Natrella, Jacques-Laurent Bost, Emmanuel Lemire, Nelson Algren, Dana Westberg, Alberto Giacometti, Enrico Di Giovanni, Henriette Charasson, Frédéric Tirmont, Colette Audry, Sophie Bourrel. Présentation Stéphanie Duncan, équipe technique Yves Baudry et Marie Lepeintre, assistante Virginie Mourté, réalisation Jacques Taroni.